Une fois, j'ai vu à la télé qu'il y a eu au moins deux expéditions archéologiques sous-marines dans les hauts fonds de la partie méridionale de la mer Morte. Qu'est-ce qu'on y cherchait? Certains croient qu'au fond de la cuvette gisent les ruines de Sodome et Gomorre. Mais comme par hasard, le lieu présumé de ces villes est situé à pic de la frontière entre Israël et la Jordanie, donc un endroit militairement sensible. Pour l'instant, les recherches sont interrompues parce que les autorités jordaniennes refusent la permission d'empiéter sur leur territoire. Sur un plateau sous-marin, voisin situé du côté israélien, on a bien retrouvé des vestiges qui correspondent à une place où on se réunissait pour des festivités. D'après les archéologues, ce centre-ville fut utilisé pendant des siècles jusqu'à une époque qui correspond à celle d'Abraham. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Moi, je trouve curieux que les soi-disant sites de Sodome au fond de la mer Morte et de l'Arche de Noé sur le mont Ararat soient tous deux situés dans des zones politiquement sensibles. Je continue à lire dans le chapitre 19 de la Genèse. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel. De l'Éternel, toute la population de ces villes périrent ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda en arrière. Elle fut changée en une statue de sel. Sodome et sa banlieue, Gomorre, sont effacées de la carte. Le cataclysme fut d'une telle ampleur que le sol, imprégné de pétrole, de bitume et de soufre, a littéralement explosé. Dans les jours qui suivirent, toute l'eau du lac voisin s'est répandue dans l'immense cratère ainsi formé, engloutissant toutes les villes de cette vallée luxuriante qui est aujourd'hui la mer Morte. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parle de son retour en tant que juge, en le comparant au moment où Sodome fut détruite. Je lis ce passage. « Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, la pluie du feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Le texte précise que la femme de Lot fut changée en une statue de sel. Ce jugement s'abattit sur elle parce qu'elle avait enfreint l'ordre de l'ange de ne pas regarder derrière elle. Mais elle aimait trop Sodome qu'elle quittait à grand regret avec ses jambes, mais sans son cœur qui restait incrusté. Dans un sens, on la comprend. On peut s'imaginer qu'elle avait bien décoré sa gentille petite maison, faisant partie du club de dessin et de la chorale du quartier, qu'elle aimait aller prendre le thé avec ses amis l'après-midi, pendant que son mari siégeait aux portes de la ville ou vendait quelques bêtes. Tous deux avaient élevé leurs deux filles, qui étaient fiancées à des garçons du pays. Leur trousseau était terminé, la salle des fêtes déjà louée. Elle venait tout juste de poster les invitations pour les noces somptueuses qu'elle et son mari préparaient. Il lui fallait laisser tout ça derrière elle, tout abandonner. De toute façon, l'avertissement de l'ange, elle n'y croyait pas. « Qu'est-ce que ça peut bien faire si je regarde en coin ce qui se passe dans mon dos ?» Elle n'a donc pas pu s'empêcher de se retourner pour jeter un coup d'œil. Elle fut pétrifiée. Le Nouveau Testament ne dit pas un mot concernant sa foi ou sa justice. Par contre, Jésus utilise cette femme comme un avertissement. Je cite le passage. « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à conserver sa vie mondaine la perdra, mais celui qui la perdra en obéissant à Dieu la retrouvera. » Aujourd'hui encore, la région environnante du sud de la mer Morte présente des formes curieuses faites de sel et qui font penser à des sculptures. La femme de Lot fut frappée sur place, et son cadavre aussitôt recouverte d'une épaisse croûte saline. C'est ainsi qu'elle devint une statue qui témoigne de sa désobéissance. Ça nous paraît dur, et ça l'est. S'attacher à ce monde qui passe est un choix qui mène à la catastrophe lors de l'enterrement d'un homme qui avait réussi dans cette vie. Un voisin, pas très délicat, demanda à un cousin du défunt « Combien il laisse derrière lui ?» La réponse tenait en un seul mot. « Tout !» Je lis la suite du texte. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorre et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham, et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. L'intercession du patriarche permit à son neveu d'avoir la vie sauve. Il n'empêche que l'épaisse fumée qui montait vers le ciel disait à Abraham que Dieu n'avait pas trouvé d'injuste dans la ville. Cette catastrophe est relatée dans la littérature séculière. Le géographe grec Stradon, qui vécut à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, décrivit tous les pays du monde alors connus et écrivit une étude socio-historique des peuples qui les habitaient. Il dit avoir recueilli sur place des témoignages transmis oralement d'une génération à l'autre. Il écrit que jadis, il existait à l'endroit de la mer Morte 13 villes qui avaient pour capitale Sodome. Selon lui, elles ont été détruites par un tremblement de terre accompagné d'éruptions d'asphalte liquide enflammé. L'historien moraliste latin Tacite affirme la même chose vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. En 1978, un archéologue italien attaché à l'université de Rome publia un atlas géographique qui avait été rédigé par la ville d'Ebla, une cité antique dans laquelle on a fait de nombreuses fouilles. Cet atlas comporte 290 noms de cités importantes. La 200e s'appelle Sodome, très proche de Sodome. La 219e se nomme Acabus, très proche d'Aqaba, le nom du golfe de la mer Rouge. À l'époque, la ville d'Aqaba, dont nous n'avons pas de traces, était sur la côte nord-est du golfe qui aujourd'hui porte ce nom. De plus, au sud de la mer Morte, on a découvert un immense cimetière avec les restes de quelques 50 000 personnes, ce qui prouve qu'à une certaine époque, cette région était très peuplée. Ce récit de la destruction des villes de la plaine met en évidence à la fois l'attention que Dieu porte à Abraham en épargnant son neveu, et sa justice expéditive qu'il n'exerce pourtant pas de manière aveugle et arbitraire, car il tient compte des justes lorsqu'il doit punir. La fin de ce chapitre est très sordide. Je le lis en compressant. Par la suite, Lot alla habiter avec ses deux filles dans une caverne de la montagne. L'aîné dit à la cadette « Notre père est déjà âgé, et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous. Allons, faisons-lui boire du vin, et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père, et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien. Le lendemain, elle fit encore boire du vin à leur père, et la cadette alla s'étendre près de lui. Il ne s'aperçut de rien. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné eut un fils qu'elle appela Moab, ce qui veut dire « issu du père ». C'est l'ancêtre des Moabites, et la cadette eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, ce qui veut dire « fils de bon parent ». C'est l'ancêtre des Ammonites. ils existent encore aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, les Écritures n'évitent pas de relater comment les choses se sont réellement passées sans essayer d'en arrondir les angles. Lot avait dressé sa tente jusqu'à Sodome en raison de son attachement aux richesses temporelles. Il devint peut-être important, mais au prix de l'acceptation par ses filles, des us et coutumes locales, ce qu'elles viennent de prouver. Ce texte ne passe aucun jugement sur cette sombre affaire de Morse. Son but est simplement d'expliquer l'origine du peuple moabite et ammonite qui s'établirent au nord l'un de l'autre et à l'est de la mer Morte. Ils furent des ennemis héréditaires des Israélites et reviennent souvent dans l'histoire du peuple hébreu. Nous voici arrivés au chapitre 20 de la Genèse, une histoire qui est aussi bénéfique qu'une cinquième patte à une vache. Il s'agit d'un autre triste épisode de la vie d'Abraham. La mésaventure survenue en Égypte se répète. Les acteurs principaux sont les mêmes, puisqu'il s'agit du patriarche et de sa femme. Les figurants et le décor ont changé, mais c'est le même bobard, la même demi-vérité qu'Abraham avait racontée au Pharaon. Dans la série des grandes magouilles, c'est rebelote. Je commence à lire. Abraham quitta cette région pour aller dans le Négev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme, Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Voyons le cadre de cette histoire. Abraham séjourna quelque temps aux confins du désert du Négev, puis va s'établir sur la côte méditerranéenne dans le pays des Philistins, aux environs de la bande de Gaza aujourd'hui. Sarah a presque 90 ans, ce qui correspondrait de nos jours à une femme de 50 ans bien conservée. Elle a très peu de rides et bien pomponnée, elle fait encore tourner la tête. En tout cas, le roi du coin, comme tout tyran qui se respecte, l'a fait enlever pour l'ajouter à son harem, comme on le ferait d'un trophée de guerre. C'est dur, mais c'est ainsi que se passaient les choses à cette époque. Encore, que ça se fait toujours bien, seulement aujourd'hui, ce sont les personnages influents et haut placés, hommes d'affaires ou politiciens. Il n'y a qu'à songer à un ancien président des États-Unis. Alors, les petites secrétaires n'ont qu'à bien se tenir et marcher dans la combine, parce que ça compte pour les bonus et l'avancement dans l'entreprise. Bref, Abraham a quitté son arbre de Mamré, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce à cause des événements précédents? Les émotions fortes générées par la destruction de Sodome lui ont peut-être donné envie de changer d'air? Comme d'habitude, il se cache derrière Sarah. L'humiliation qu'il avait subie en Égypte ne lui a pas servi de leçon. Le même scénario se répète. Dieu intervient, le roi prend peur. Tout éberlué, il demande des comptes à Abraham pour son mensonge et le jugement divin qui pèse sur son royaume. Sur quoi le patriarche lui répond. Et je lis. Je me suis dit certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays-ci, et on me tuera à cause de ma femme. La crainte de Dieu est une expression conventionnelle qui revient fréquemment dans les Écritures et qui équivaut à avoir la foi. Ça correspond aussi à une attitude de profonde révérence, à l'extrême respect que l'homme doit à Dieu, qui implique la reconnaissance de son autorité et l'obéissance à ses commandements. Mais ici, la foi légendaire d'Abraham a encore fait naufrage alors que Dieu vient de lui promettre que d'ici un an, lui et Sarah auraient un héritier. Si ça se trouve, elle est déjà enceinte. Cette peur soudaine et irrationnelle du patriarche se comprend interrogé par le roi des Philistins, il s'explique. Je lis la suite. Sarah est réellement ma parente, puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Elle est devenue ma femme quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu. J'y dis à ma femme, aie la bonté de dire, partout où nous irons, que je suis ton frère. Abraham était méfiant vis-à-vis de Dieu. Il n'avait pas tellement confiance en lui quand il a quitté la ville natale et lui reproche même son pèlerinage. Alors, pour survivre, lui et sa femme ont fait un pacte. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Mes doutes, en la bonté de Dieu, conduisent aux magouilles qui éclipsent ma foi. Abraham a fait usage de ce lâche procédé à deux reprises. Une première fois en Égypte et à nouveau avec Abimélec, le roi des Philistins. C'était en fait l'application d'un accord convenu au début de son mariage avec Sarah. Ces deux actions du patriarche sont réfléchies et préméditées, ce qui aggrave d'autant son cas. Il est intéressant de remarquer dans tout ça que l'Éternel ne s'émeut pas outre mesure. Patiemment, il est en train d'enseigner à son serviteur la confiance en Dieu et les échecs font partie de cet apprentissage. Évidemment, quand la même faute se reproduit, c'est quand même décourageant. Je finis le chapitre. Alors, Abimélec prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme, puis il ajouta « Mon pays est à ta disposition. Établis-toi où bon te semblera. » Puis à Sarah, il dit « Voici que j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimélec, ainsi que sa femme et ses servantes. Abimélec dédommage Abraham assez grassement pour le dérangement et ne les éjecte pas comme l'avait fait Pharaon. Le patriarche prie Dieu d'ôter la malédiction et tout rentre dans l'ordre. On a presque envie de dire « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». En fait, c'est presque ça, puisque le sujet du chapitre 21 est la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Après le comportement mensonger précédent, un remake de l'incident égyptien, nous sommes à nouveau en plein dans cette alliance importante entre Dieu et Abraham. Je commence à lire. L'Éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et, au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Après 25 ans d'attente, la foi, presque peu chancelante d'Abraham, est récompensée. En effet, le Nouveau Testament déclare qu'il était réellement un homme de foi. Je cite le passage. Sans faiblir dans sa foi, Abraham se considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Comme Sarah avait toujours été stérile, ce vieux couple savait, sans l'ombre d'un doute, que la naissance de cet enfant, tant désiré et souvent promis, était miraculeuse. Isaac naquit à cause de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Cet heureux événement fait penser à la venue du Christ qui eut lieu environ 2000 ans plus tard. Quand Isaac est né, il est écrit « Au temps promis par Dieu, Sarah donna un fils à Abraham ». L'annonce de la venue de Jésus est très similaire, puisque dans le Nouveau Testament, il est dit « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme ». Tout comme celle d'Isaac, la naissance du Christ avait été annoncée à maintes reprises et longtemps à l'avance par les messagers de l'Éternel. Ça me fait penser au chant de Noël « Il est né le divin enfant » où un des versets dit « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes, mais je ne sais pas trop où l'auteur est allé piocher les 4000 ans. Quoi qu'il en soit, Les naissances miraculeuses d'Isaac et de Jésus furent prédites longtemps à l'avance et eurent lieu au moment précis choisi par Dieu. Il existe d'autres similitudes. Ces naissances suscitèrent l'étonnement. Ainsi, Sarah a rigolé parce que la promesse de Dieu lui paraissait impossible et la Vierge Marie fut si surprise que sa première réaction fut de demander « Mais comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme ?» Avant qu'ils ne naissent, Dieu avait choisi un nom pour chacun de ses enfants. Lorsque l'ange apparut à Joseph, il a dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Elle donnera naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses fautes. » C'est lui, le Sauveur. Voilà une bonne raison de s'exclamer « Chantons tous son avènement !»